Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà une philosophie qui me va comme un gant. Mais ça ne marche pas toujours, car parfois on vous trouve. C'est ce qui est arrivé au prophète Amos, un habitant de Juda, qui était éleveur et arboriculteur de son état. Ses affaires marchaient plutôt bien. Il vivait tranquille et ne demandait rien à personne. Dieu, par contre, l'a repéré et est venu lui demander un gros service. En fait, il lui a ordonné de traverser la frontière et d'aller dans le pays frère pour annoncer le châtiment des nations ainsi que le jugement des Israélites du Nord, à moins qu'ils ne se repentent de leurs mauvaises actions. On ne sait pas comment Amos a réagi parce qu'il ne partage pas ses états d'âme. Sac à dos, le voilà parti. Il se rend à Bethel, un sanctuaire idolâtre, et commence son ministère prophétique. Cependant, comme c'était un homme très pieux, entre ses oracles de jugement, il célèbre plusieurs fois la grandeur de l'Éternel et martèle son nom pour rappeler aux Israélites incrédules qui il est, ce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir comprendre. En effet, et contrairement à ce que les Israélites croyaient, le Dieu d'Israël n'est pas comme une idole qu'on peut acheter ou avec qui on peut conclure un marché. Tout lui appartient. Il est le Seigneur, le Dieu qui a conclu avec Israël une alliance pour la seule raison qu'il a choisi ce peuple. Ayant sa demeure dans les cieux, il ne se laisse pas enfermer dans un sanctuaire terrestre, et encore moins dans les sanctuaires illicites et idolâtres, établi dans le royaume israélite des 10 tribus du Nord. Il ne se laisse pas non plus impressionner ou manipuler par des actes religieux. Il est le Dieu des armées angéliques et n'a pas besoin des hommes ou de leur simagrée. En tant que Dieu de l'Alliance, il exige le plus grand respect de la part de ses créatures ainsi que l'obéissance à ses commandements. Les ayant rejetés, les Israélites devront le rencontrer comme leur juge. Voilà en gros le message d'Amos. Les Israélites, présomptueux, s'imaginent être à l'abri du jugement simplement parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Mais Amos leur rappelle que les privilèges entraînent dans leur sillage de plus grandes responsabilités. Or, comme Israël ne les a pas assumés, il subira un châtiment exemplaire, justement parce qu'il est le peuple de Dieu. L'Éternel se conduit différemment à l'égard des nations païennes. Il va certes les punir à cause de leur dépravation et de leur cruauté, et parce qu'ils ont violé la loi qui est dans leur conscience, mais Dieu ne les jugera pas en fonction de la loi de Moïse, parce qu'elle ne les concerne pas. Par ailleurs, Amos ose affirmer qu'Israël, que ce soit Juda ou le royaume des 10 tribus, n'a rien de plus que les autres peuples et que l'Éternel s'occupe également de ces derniers. La seule distinction d'Israël par rapport aux autres nations est qu'il a reçu la révélation de Dieu et de sa loi. Mais si Israël rejette cette lumière et se détourne du Dieu unique et vrai, et s'il rend un culte aux idoles à la manière des païens, il n'est pas différent des autres peuples et sera traité en conséquence par un jugement destructeur qui viendra en temps voulu. Cela dit, l'Éternel demeure fidèle au peuple d'Israël et il en sauvera un petit reste qu'il mettra au bénéfice des promesses de bénédiction prévues par l'Alliance. Et au travers de ces rescapés, il accordera aussi sa bénédiction à tous les peuples. De cette façon, le choix souverain et privilégié d'Israël sera maintenu et le monde entier en bénéficiera. La prédiction d'Amos est unique sous plusieurs aspects, mais le plus frappant chez lui est la très grande place qu'il accorde à dénoncer les injustices sociales, la corruption de la société et l'oppression des pauvres. Amos rappelle que l'Éternel est le défenseur de la veuve, de l'orphelin et du miséreux, comme cela ressort souvent dans la loi. Il faut cependant noter que le prophète ne fait aucune critique du système socio-économique d'Israël et qu'il n'en propose pas d'autre. Ce qu'il condamne, ce sont les abus dans le système existant. S'il dénonce l'exploitation outrageuse des pauvres par les nantis, il ne range pas pour autant les opprimés dans le camp des bons et ne les laisse pas espérer qu'ils échapperont au jugement, car eux aussi participent au culte des idoles. Aux yeux du prophète, les pauvres ne valent pas mieux que ceux qui les exploitent, et autant les uns que les autres ont besoin de se repentir et de changer de vie. Amos ne prône donc pas une révolution par laquelle la classe défavorisée prendrait le pouvoir sur les despotes façon 1789. Ce qu'il demande est bien plutôt une révolution des cœurs, de tous les cœurs. Il ne réclame pas seulement la pratique de la justice sociale, mais aussi avant tout un retour à Dieu, car pour lui, on ne peut pas agir bien, conformément à la morale, sans être préalablement retourné à Dieu. On ne peut donc pas utiliser le livre d'Amos pour défendre un idéal politique socialiste. Il n'empêche que la justice sociale est proche du cœur de Dieu et un enseignement très important dans les textes sacrés. Il s'ensuit que les croyants ne doivent pas accorder les yeux fermés leur suffrage au grand capital, comme c'est le cas dans certains pays où l'ultralibéralisme est religion d'État. Les prophéties d'Amos trouvent un écho dans le Nouveau Testament. Jacques tient lui aussi un discours très sévère contre les riches qui exploitent les pauvres. De plus, et à l'exemple d'Amos, l'apôtre Jacques a une vision mondiale du salut. Au Concile de Jérusalem, il cite un oracle de ce prophète pour montrer que Dieu prend aussi des non-juifs pour en faire son peuple. Le diacre Étienne est un autre personnage du Nouveau Testament qui cite un texte d'Amos pour prouver que le péché d'Israël remonte au temps de ses débuts, c'est-à-dire que ce peuple est corrompu depuis son origine. Ce discours d'Étienne a eu un grand retentissement puisqu'il lui a valu d'être tué à coups de pierre. Je commence à lire ce livre. Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, qui lui fut révélé au sujet d'Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Amos, dont le nom signifie « porteur de fardeau », était éleveur dans le sens de propriétaire de bétail, ce qui signifie qu'il était plutôt aisé. Tekoa est située dans une région vallonnée à 850 mètres d'altitude et à 20 km au sud de Jérusalem. On ne sait rien du tremblement de terre qui a secoué la région, sinon qu'il a marqué les mémoires, puisque 2 siècles et demi plus tard, le prophète Zacharie le mentionne également. Je continue. Amos dit « De Sion, l'Éternel rugit, et de Jérusalem, il donne de la voix. Les pâturages des bergers se flétriront, le sommet du Carmel desséchera. » Amos dit « De Sion, l'Éternel rugit, et de Jérusalem, il donne de la voix. Les pâturages des bergers se flétriront, le sommet du Carmel desséchera. » Verset 2. Sion est le nom de la colline sur laquelle était bâti le temple de Salomon. Carmel signifie « campagne fertile ». C'est aussi le nom d'une chaîne de montagnes longue de 25 km culminant à 530 mètres d'altitude qui s'avance en promontoire dans la mer Méditerranée et qui surplombe la plaine de Megiddo. Les prophètes Élie et Élisée y avaient habité au siècle précédent. Amos prophétise la dévastation de tout le pays. Étant berger de profession, il décrit l'événement comme il le ressent dans ses tripes, sous la forme d'une désolation des pâturages et des forêts. L'Éternel rugit comme un lion pour paralyser de peur sa proie avant de se jeter sur elle. Dans les deux premiers chapitres du livre, Amos regarde le jugement de l'Éternel qui, semblable à un lion, tombe successivement sur sept nations qui entourent le royaume des 10 tribus avant de finalement fondre sur Israël lui-même. Amos ne pouvait parler aux Israélites du Nord et être écouté qu'après avoir prouvé son impartialité en proclamant le châtiment de Juda, son propre peuple. Mais au final, c'est Israël qu'Amos vient avertir du jugement imminent. Il veut que cette nation comprenne que Dieu règne sur toutes les nations et qu'il ne laisse pas le mal impuni, que ce soit chez les païens ou en terre promise. Qu'Israël Nord ne se fasse donc pas d'illusions du fait de sa qualité de peuple élu. Là où est le péché, là tombe aussi le châtiment. Amos prophétise donc que Dieu va déclencher ses jugements, mais ils vont zigzaguer en passant et repassant sur la tête d'Israël Nord avant de l'atteindre, lui. La première nation visée est la Syrie qui se trouve au nord-est d'Israël, puis ce sera le tour des Philistins au sud-ouest, des Phéniciens au nord-ouest, Édom, Ammon et Moab au sud et au sud-est, Juda au sud, et enfin c'est Israël Nord qui sera dans l'œil du cyclone. Je continue le texte. L'Éternel dit ceci, « À cause de 3 crimes de Damas et à cause de 4, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris, car ils ont écrasé sous des herses de fer les gens de Galaad. » Verset 3. Damas, capitale de la Syrie, est située sur la frontière nord d'Israël. Le refrain « à cause de 3 crimes et à cause de 4 » introduit les 8 annonces de jugement des 6 nations païennes de Juda puis d'Israël nord. 3 désigne déjà un superlatif et par conséquent un degré de perversité pleinement suffisant pour justifier le châtiment. Mais 4 représente le surplus qui correspond à la goutte d'eau proverbiale qui fait déborder le vase. Ici, de la colère divine et qui justifie « Je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris ». Le décret prononcé ne sera pas révoqué. On peut aussi remarquer qu'en ajoutant 3 et 4, on obtient 7, qui est le chiffre de la plénitude, et ici c'est celle du péché porté à son comble. Si les expressions poétiques sont des jeux d'esprit, parfois, comme ici, elles permettent aussi d'appuyer une idée mieux que la prose. Galaad désigne toute la région à l'est du Jourdain. Elle avait été allouée par Moïse aux tribus de Ruben, Gad et à la demi-tribu de Manassé. La herse de fer était une planche arquée garnie sur la surface intérieure de pointes acérées. Elle était tirée par des bœufs pour battre le blé et couper la paille. Le crime de Damas, que relève Amos, est d'avoir supplicié les habitants de Galaad au moyen de ces herses de fer. Ce massacre eut lieu au 9e siècle avant Jésus-Christ, après que les Syriens aient remporté une victoire militaire sur Israël. Ce traitement cruel avait été prédit par le prophète Élisée. Je continue. Je mettrai donc le feu au palais d'Azaël, et il consumera les palais du roi Ben-Hadad. Verset 4. Azaël fut roi de Syrie et fondateur d'une nouvelle dynastie après avoir assassiné Ben-Hadad Ier, le roi précédent. C'est du classique comme dans la bande dessinée, où le grand vizir Isnogoud ne cesse de répéter qu'il veut être calife à la place du calife. Plus on étudie l'histoire de l'humanité et plus on constate que ce n'est jamais qu'un livre ouvert sur sa déchéance et sa dépravation. Azaël fut succédé par son fils qui prit le nom de Ben-Hadad II. Les résidences somptueuses de ces rois seront donc livrées aux flammes. Le roi d'Israël, Joas, infligea à Ben-Hadad II trois défaites militaires successives. Je continue. Oui, je ferai sauter les verrous de Damas. Je ferai disparaître celui qui siège sur le trône dans la vallée d'Aven et celui qui est au pouvoir à Beth-Éden. Et les Syriens partiront en exil à Kir. L'Éternel le déclare. Verset 5. Les verrous de Damas consistaient en des barres de fer qui fermaient les portes d'entrée de la ville. Les mots « vallée d'Aven » et « Beth-Éden » font référence à des localités syriennes, peut-être deux résidences royales. Elles se trouvent sur la route qui va de Beyrouth à Damas. La première signifie « vallée de Baal » ou « du Seigneur ». Mais Amos a légèrement altéré le mot pour qu'il signifie « vallée de néant ». La seconde localité est à quelque distance au nord de la première, dans un endroit qui porte encore le nom d'Éden. Beth-Éden veut dire « maison du plaisir ». Kir est la patrie ancestrale des Syriens. Aujourd'hui, cette ville fait partie de la Géorgie, l'ancienne république soviétique. Elle se situe entre les montagnes de l'Arménie et la chaîne du Caucase, dans une grande vallée arrosée par le fleuve appelé Kour. Amos annonce que les Syriens retourneront dans leur ville d'origine, mais en tant qu'exilés. C'est en 732 avant Jésus-Christ qu'un roi assyrien prit la ville de Damas et déporta ses habitants dans la vallée où se trouve Kir. Comme on peut le constater, les textes sacrés ne sont pas un roman ou un livre de fables qui raconte ce qui se passe dans un pays imaginaire. La parole de Dieu est enracinée dans l'histoire de l'humanité et dans la géographie de la planète. Je continue le texte. L'Éternel dit ceci, « À cause de trois crimes de Gaza, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, car ils ont déporté des prisonniers en masse pour les livrer à Édom comme esclaves. Je mettrai donc le feu aux remparts de Gaza, et il consumera les palais qui s'y trouvent. » Versets 6 et 7. Gaza, située au sud-ouest d'Israël, était la plus importante des villes des Philistins. Elle représente la nation entière et a donné son nom à ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. Cette ville était une forteresse qui jouait un rôle capital chaque fois qu'il y avait une guerre entre l'Égypte et un empire du Moyen-Orient. Les Philistins se comportaient comme des bandits de grand chemin. Ils faisaient des razzias en Juda et Israël Nord et ramenaient des captifs qu'ils vendaient aux Édomites, aux Arabes et aux Phéniciens, c'est-à-dire aux plus offrants. Je continue. Je ferai disparaître celui qui, dans Asdod, est assis sur le trône, et celui qui est au pouvoir à Ascalon. Je me tournerai contre Écron, et ainsi périront les derniers Philistins. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Les Philistins formaient une confédération qui comprenait cinq villes principales et qui, par ordre d'importance, étaient Gaza, Asdod, Ascalon, Écron et Gath. Mais comme cette dernière avait été conquise par Hazaël, roi de Syrie, et qu'Ozias, roi de Juda, en avait démoli les murs, elle était en net déclin. C'est ce qui explique, d'une part, qu'elle soit omise, ici, bien qu'elle soit mentionnée un peu plus loin, et d'autre part, qu'elle n'apparaît pas dans les inscriptions assyriennes. Asdod et Ascalon sont aujourd'hui en Israël. Le port d'Asdod est relativement récent et on y a construit une grande raffinerie de pétrole et d'autres complexes industriels. Plus au sud, dans les ruines d'Ascalon, on peut visiter ce qui reste du grand temple de Dagon, détruit par Samson, l'un des juges d'Israël. En son temps, il fut l'ennemi le plus implacable des Philistins. Malheureusement pour lui, sa passion pour les femmes l'a perdu. Il était tombé amoureux de Dalila, une philistine, qui le tourmentait pour savoir d'où lui venait sa force surnaturelle, afin de le trahir pour de l'argent. C'est descendre bien bas. Le pire est que Samson lui a révélé son secret. Alors, elle l'a endormi sur ses genoux et a fait couper ses tresses. Samson perdit alors sa force, fut capturé et emprisonné. Mais alors que les Philistins célébraient leur victoire dans le temple de Dagon, ils firent venir leur ennemi et le placèrent entre les deux colonnes qui soutenaient le bâtiment afin de se moquer de lui. Je lis la suite du texte. Samson pria l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, je te prie, interviens en ma faveur, rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes deux yeux. » Il toucha les deux colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit, « Que je meure avec les Philistins !» Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Samson est un personnage énigmatique qui avait de nombreux travers et pourtant le Nouveau Testament le place dans la galerie d'honneur des hommes de foi.